passons notre vie à faire des choix. Il y a des choix qui sont peu engageants. Café ou thé le matin au petit déjeuner, ça ne va pas changer notre vie, par exemple. Il y a des choix qui le sont plus. Il y a des choix qui sont fondamentaux. Quel sens je vais donner à ma vie? Quelle orientation je vais prendre? Quelles études je fais pour quel métier? À quelle vocation suis-je appelé? Religieux, prêtre, consacré, marié, etc. Et à chaque fois, nous nous posons cette question, mais qu'est-ce que je dois faire? Que devons-nous faire? Et cette question, elle revient régulièrement dans la Bible et dans l'Évangile. Lorsque les foules s'approchent de Jean le Baptiste et qu'ils sont baptisés dans le Jourdain, ils posent cette question au précurseur. Que devons-nous faire? Souvenons-nous de ce jeune homme qui va voir Jésus et qui lui dit « Mais que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle en héritage ?» Et puis, à l'issue de la première prédication de Paul à Jérusalem, toute la foule rassemblée qui est saisie par son enseignement et qui dit « Mais pour suivre ce Christ dont tu nous parles, qu'est-ce que nous devons faire ?» Voilà une question vitale et fondamentale pour nous, car les choix que nous faisons, ils sont aussi orientés par ce que nous vivons, par nos convictions et par notre foi. Et donc toute la question, c'est comment harmoniser ce que nous croyons et ce que nous choisissons. Et c'est à cela que l'ensemble des textes de ce dimanche nous invite à réfléchir. Choisir, c'est d'abord discerner, c'est découvrir ce que Dieu attend de nous, ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Habiter par cette conviction qu'il veut ce qu'il y a de grand, de meilleur et de beau pour nous. Mais ça n'est pas si simple de savoir ce que Dieu attend de nous. C'est la question que pose l'auteur du livre de la Sagesse au début de la première lecture. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Ses intentions, ses volontés, c'est bien ce que Dieu attend de nous. C'est bien les choix qu'il nous invite à faire pour harmoniser notre vie à notre foi. Et à cette question survient une autre difficulté, qui est la différence inouïe qu'il y a entre Dieu et nous. Dieu qui se présente comme le Seigneur. Je suis celui qui suis. Il est stable, il est solide, il est indéboulonnable, il est éternel, il est parfait, il est infini. Et face à ce Dieu que je viens de décrire, l'homme est décrit par l'auteur du livre de la Sagesse comme quelqu'un d'instable, de périssable, de fragile. Comment, avec notre instabilité, notre fragilité, comment saisir ce que Dieu, le tout autre, attend de nous? Il y a un tel fossé entre lui et nous que cela semble bien impossible pour nous de pouvoir répondre à cette question. Quelles sont les intentions de Dieu? Quelles sont les volontés du Seigneur? Mais voilà que l'auteur du livre de la Sagesse nous donne la réponse. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons découvrir ce que Dieu attend de nous. C'est en nous mettant à son école et en le laissant nous enseigner que nous pourrons alors poser des choix clairs. Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? La Bible nous rappelle que Dieu s'est révélé à nous progressivement, depuis la création jusqu'à l'incarnation. Et dans cette révélation progressive que Dieu fait de lui-même, il nous dit ce qu'il attend de nous. Il nous révèle les choix que nous avons à faire, les décisions que nous avons à prendre. Il l'a fait de manière pleine, entière et ultime en son Fils Jésus, sagesse par excellence. Et il nous donne l'Esprit Saint qui nous rend capables de discerner ce que Dieu attend de nous. Il y a dans cette assemblée un certain nombre d'entre nous qui se préparent à recevoir ce sacrement de la confirmation. Demandez sans cesse l'Esprit Saint pour qu'il vous aide dans le discernement que vous avez à opérer, dans les choix que vous avez à poser. Et si cela est valable pour ceux qui se préparent à ce sacrement, cela est valable pour nous tous qui l'avons reçu. L'Esprit Saint, c'est une force incroyable que Dieu nous donne avec ses dons, qui nous fait porter du fruit et qui nous permet de découvrir ce que Dieu attend de nous. Choisir, c'est discerner, mais choisir, c'est aussi renoncer. Jésus le rappelle dans l'Évangile, et peut-être que ces paroles sont un peu dures à entendre pour nous, un peu violentes. Il nous invite à un triple renoncement, si je puis dire. Il nous faut préférer le Christ à toutes nos autres relations et même à notre vie. Il nous faut prendre notre croix pour marcher à sa suite. Il faut renoncer à tous nos biens pour le suivre. C'est peut-être dur et difficile à entendre, mais voilà comment Jésus résume la mission du disciple, de celui qui choisit un maître, qui se met à son école pour essayer, encore une fois, d'ajuster sa vie à ce que Dieu désire pour lui. Et nous comprenons alors ces deux petites histoires, ces deux petites paraboles que Jésus raconte. À première vue, elles semblent ne pas avoir de rapport avec son enseignement, mais c'est tout le contraire. Au fond, Jésus nous dit ceci: être mon disciple, c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais c'est aussi exigeant. Alors, avant de poser ce choix, prends le temps de la réflexion. De la même manière qu'un architecte prend le temps de la réflexion avant de se lancer dans une construction pour être sûr d'aller au bout. Prends le temps de la réflexion comme un roi prend le temps de la réflexion avant de partir en guerre pour être sûr d'obtenir la victoire. Oui, c'est cela à quoi nous sommes invités. Découvrir la beauté de suivre le Christ comme disciple, mais en même temps être conscient des exigences que cela représente. Et donc, prendre le temps de la réflexion et choisir. Ça n'est pas simple de renoncer, nous le savons bien. Ça n'est pas simple de renoncer à des belles choses. Nous en avons fait l'expérience. Mais le renoncement est indispensable dans toute vie. Si nous choisissons de prendre une destination, nous allons sur notre route nécessairement croiser des ronds-points. Et à chaque fois que nous entrons dans un rond-point, il y a de multiples directions qui nous sont indiquées. Nous en avons choisi une. Mais si nous avons choisi une, nous allons renoncer à toutes les autres. Nous serions tentés de ne pas vouloir renoncer, de vouloir tout choisir. Mais à ce moment-là, nous serions comme un automobiliste qui tournerait sur un rond-point pour ne se fermer aucune destination, mais il n'en choisirait aucune également. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Il désire une vie où nous faisons des choix clairs, distincts, qui nous orientent vers lui. Et suivre le Christ, c'est beau, c'est exigeant, mais cela donne tout son sens à notre vie. Si choisir, c'est renoncer, choisir, c'est enfin agir. Et nous avons une belle illustration de ce choix qui est fait par Paul dans la deuxième lecture, dans ce que nous pourrions appeler l'affaire Onésime. Paul s'adresse à Philémon, qui avait Onésime comme esclave. Mais voilà que Onésime s'enfuit. Non seulement il s'enfuit, mais il a sans doute commis un délit, peut-être même un vol. Et dans sa fuite, il rencontre Paul. Il est saisi par l'enseignement de l'apôtre. Il se convertit et reçoit le baptême. Et Paul est face à un dilemme. Que dois-je faire ? Respecter la loi, c'est-à-dire renvoyer Onésime chez son maître, avec le risque que ce droit soit violent, complexe, difficile à vivre pour cet homme, ou ne pas respecter la loi pour poursuivre la formation d'Onésime. Quelquefois dans nos vies, il y a des choix crucifiants que nous sommes appelés à faire et à vivre et qui ne sont pas si simples. Alors, Paul prend la plume. Il écrit l'une des lettres les plus courtes de la Bible. Nous en avons là quasiment l'intégralité. Et il invite Philémon à une triple conversion. Reprends-le, sans le juger, sans le condamner, sans vouloir te faire justice, sans te faire violence. Reprends-le simplement comme il était avec toi jadis, comme esclave. Mais tu peux aussi aller plus loin. Il est ton frère dans le Christ, puisqu'il a reçu le baptême. Alors ne le considère plus comme un esclave, mais considère-le vraiment comme un disciple du Christ, comme ton frère en Jésus. Et même tu peux aller un peu plus loin. Non seulement reconnais-le comme frère, mais ose lui rendre sa liberté. Ose l'affranchir. Voici tout le chemin que Paul propose à Philémon. Que fera-t-il ? Nous ne le savons pas. Mais cela nous interroge également sur la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et cela nous rappelle que par le baptême, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et que c'est cela que Paul nous redit ici. Nous l'avons entendu dans d'autres passages de ses lettres. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, il n'y a plus les juifs et les grecs, il n'y a plus les païens et les juifs, il n'y a que des frères et sœurs en Christ. Le baptême transforme radicalement ce que nous sommes et devrait également transformer les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Le baptême nous donne une dignité immense, égale, et c'est là-dessus que Paul insiste. Oui, dans notre vie, nous avons tous des choix à faire. Ces choix, il faut les discerner, il faut renoncer et il faut agir. Et nous avons aujourd'hui deux témoins merveilleux qui ont choisi de renoncer pour suivre le Christ. Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis. Demandons-leur d'intercéder auprès du Seigneur pour nous. Demandons-leur qu'il nous aide, nous aussi, à faire ces choix qui nous feront grandir sur le chemin de la sainteté. Amen.